Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-France Montebello, qui vient de publier La traversée des macaronis. Bonjour Marie-Françoise.
Ciao Jean-Pierre.
Alors, Marie-Françoise est née en Lorraine. Elle est linguiste et traductrice, mais elle sait faire plein d'autres choses. Et en lisant ce livre, Marie-Françoise, j'ai retrouvé des souvenirs d'enfance. L'histoire de ma grand-mère qui a été placée à 12 ans dans une ferme car il n'y avait plus rien à manger chez ses parents. Les baraquements en tôle bitumée, les cebadas qui sont des beignets que l'on sur lesquels on mettait du miel pour les manger tièdes, le carasau qui est un pain typique sarde, qui est un pain feuilleté, et puis les chaises le soir sur les trottoirs pour prendre le frais. Alors ce sont plein de souvenirs d'enfance qui sont revenus à ma mémoire et qui m'ont fait vraiment voyager dans cette histoire que je trouve belle, qui a été une histoire un peu compliquée, un peu difficile, mais qui est une belle histoire. Marie-Françoise, pourquoi ce livre ?
Alors, d'abord, je voudrais signaler, puisqu'on est en audio, que le titre, c'est « La traversée des macaronis », I-E-S, majuscule. Pourquoi les macaronis ? Parce que c'était le surnom que l'on donnait aux Italiens immigrés qui arrivaient en France dans le Nord. À Paris, c'était les Rital, hein, tout le monde connaît le livre de Cavanna Rital, et dans le Sud, on m'a dit que c'était les Babis. Voilà. Ouais. Macaroni avec un E majuscule parce qu'on a bien sûr souvent entendu parler de ces immigrés italiens qui étaient venus travailler, on n'a pas beaucoup entendu parler de leurs femmes, des femmes, de ces femmes qui quelquefois ont dû venir seules pour rejoindre leur mari qui était déjà en poste ou en nord dans les aciéries ou dans le sud, Ciotat-Zampe ou à Marseille. Donc voilà, c'est un parti pris, c'est de redonner, de remettre en lumière ces femmes dont on n'a jamais parlé, puisque je suis donc une petite fille de grand-mère sarme qui a fait le voyage toute seule. Elle a pris le bateau avec des enfants et elle est arrivée alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle est arrivée en France.
Alors, l'immigration italienne dans la région marseillaise est un phénomène ancien. 5 à 6 000 Italiens étaient installés à Marseille à la fin du XVIIIe siècle sur une population de 100 000 habitants. Ce qui est énorme, c'est presque 10%. Mais c'est surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que la vague migratoire est la plus importante. En 1911, il y a 97 000 Italiens qui sont recensés à Marseille sur 550 000 habitants. C'est-à-dire près de 20% de la population marseillaise est d'origine italienne. Bon. De plus, les Italiens échappent souvent à la réglementation qui a été mise en place et la délinquance est une réalité que l'on retrouve dans les documents judiciaires et qui nous apprennent de nombreux et précieux détails de la vie quotidienne de ces familles installées à Marseille. Les dossiers de naturalisation sont très très nombreux. Ceux concernant les expulsés le sont plus encore. Entre 1859 et 1940, ils représentent 807 cartons d'archives pour l'ensemble des immigrés résidant sur notre territoire, ce qui est absolument énorme. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Italiens représentent près du cinquième de la population marseillaise. Et ensuite, cette population va continuer à se développer. De toutes les communautés qui forment l'identité métissée de Marseille, les Italiens sont sans doute les plus nombreux. Plus nombreux que les Espagnols, plus nombreux que les Arméniens, plus nombreux que les Maghrébins. Alors, vous êtes à l'origine, vous êtes d'origine sardo à Bruges, né en Lorraine. Qu'est-ce qui vous a amené à Marseille?
Alors, je suis d'origine sardo à Bruges, effectivement, né à Longwy, la cité du fer, comme on dit. Donc, j'étais dans une ville qui était une petite Italie, en fait, puisque la plupart des gens qui habitaient là étaient venus d'Italie, reformaient justement leur petite diaspora. Qu'est-ce qui m'a amené à Marseille? Je pense que le fait d'entendre ma mère, qui était donc qui a vécu en Sardaigne jusqu'à 9 ans, et l'entendre se plaindre continuellement de la pluie, du gris, des usines, et nous communiquer sa nostalgie de la Sardaigne et de l'île, a fait que petit à petit, je suis d'abord allée à Paris, et ensuite à Paris c'est pareil, et il y a eu cette envie d'aller vers l'est, vers le sud, vers quelque chose de plus joyeux, le sud. Et donc, en fait, pour moi, Marseille, c'est la ville la plus joyeuse, la plus gaie, la plus sympathique, parce que, justement, elle est pleine de tous ces immigrés, elle est pleine de nous tous. Et je me suis sentie très bien dès que je suis arrivée à Marseille. Et je suis arrivée à Marseille il y a 30 ans. Je ne pense pas que je vais quitter cette ville. Voilà.
À propos des Italiens, les Marseillais et Bondins disaient qu'ils étaient sales, débauchés, paresseux, sans d'ailleurs établir un lien véritable entre ces travers et les conditions de vie précaires de cette communauté. Et hier comme aujourd'hui, les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets. Donc on dit la même chose à propos d'autres populations immigrées qui arrivent aujourd'hui à Marseille. Peut-on dire que Marseille est une ville accueillante?
Je pense que Marseille a toujours été une ville accueillante. D'abord, c'est un port, et comme port, donc c'est la première ville où les gens vont accoster. Et comme c'est quand même un côté, moi je trouve, chaleureux, on a envie d'y rester. Après, c'est évident qu'aujourd'hui, on nous parle de cette nouvelle, de ces perpétuelles migrations qui sont trop… je pense que nous en sommes la preuve, nous les petits-enfants d'immigrés, que… On a toujours été au début mal accueillis, mais qu'en une, deux ou trois générations, on s'intègre et on enrichit le pays dans lequel on arrive, puisqu'on l'enrichit de notre culture. Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant dans l'Est, dans la cité du fer, on nous traitait de sales macaronis, parce qu'on était pauvres, on était mal habillés, etc. Mais c'était aussi une méconnaissance de l'Italie. Aujourd'hui, quand je dis « j'ai l'origine italienne », tout le monde me dit « ah, Rome, ah, Venise, ah, la Sardaigne ». Mais il y a 50 ans, c'était nul, quoi, parce que les gens ne connaissent pas l'Italie. Donc, ils se permettaient de te traiter de alors qu'ils n'avaient aucune connaissance de ce pays. Je pense que c'est la même chose pour les migrants actuels. Je veux dire, sachons d'abord de où ils viennent, quelles sont leurs cultures, et cette culture qu'ils nous apportent ne peut que nous enrichir.
Alors, le premier chapitre de votre livre, c'est la traversée. Cette traversée est encore vécue aujourd'hui par les migrants qui tentent de fuir par la mer ou de traverser les Alpes à pied. Comment Marseille, la France, l'Europe peuvent, doivent, accueillir les personnes qui ont été secourues par SOS Méditerranée?
Je n'ai pas de conseils à donner, je vais juste donner mon opinion, c'est-à-dire comment peuvent-ils, quelles sont leurs possibilités d'accueil. C'est difficile parce que Je pense qu'ils ne sont prêts à accueillir autant de monde. C'est pareil certainement pour la migration. Et d'ailleurs, cette migration, c'est en voyant une femme avec soi et ses deux enfants à la main que j'ai pensé à ma grand-mère. Et je me suis dit, c'est incroyable. 100 ans après, on est exactement dans la même situation avec ces femmes qui arrivent, qui ne savent pas parler la langue. Je pense qu'il devrait y avoir davantage de possibilités de donner des cours pour que ces gens-là puissent parler le français, ensuite qu'on les aide à s'insérer dans cette ville. Je pense que les gens le font de plus en plus. J'étais mardi à une conférence à la maison d'intégration, justement, la maison départementale d'intégration. Et voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont peut-être pas suffisantes.
Dans les premières pages de votre livre, vous décrivez les conditions du voyage des femmes et des filles parties de Sardaigne. Pourquoi ont-elles embarqué pour aller à Marseille? L'ont-elles choisi?
Pourquoi ont-elles choisi Marseille?
Pourquoi? Mais est-ce qu'elles ont eu le choix entre Marseille et une autre destination?
Je pense que l'idée d'abord, c'était de rejoindre la grand-mère qui part, la cabadora qui part, la sorcière qui est l'ancêtre des icônes féministes, hein, parce qu'elle a le pouvoir de la naissance, le pouvoir des herbes, et le pouvoir aussi d'accompagner les morts. Elle décide de partir parce que elle est en Sardaigne, son mari est parti il y a plus d'un an, elle n'a pas de nouvelles. Et donc, elle va partir avec son enfant à la recherche de cet homme, de ce mari qui est parti, dont elle n'a aucune nouvelle, puisqu'à l'époque, c'était rare les lettres. Voilà, donc elle décide, je pense, d'abord à Marseille. Et à Marseille, elle va rester un ou deux ans, temps de gagner de l'argent en soignant les gens avec les herbes. Et ensuite, elle va faire un peu un travail de pistage pour savoir où est son mari. Parce qu'elle ne sait même pas où il est.
Et qu'est-ce qui incite la famille de Tonède à quitter Marseille?
Justement, ils vont quitter Marseille parce qu'ils vont aller vers le nord-est, et donc vers l'est, où le travail était possible. Plus possible, peut-être, et où il y avait déjà une colonie d'Italiens qui les attendaient, leurs frères, leurs sœurs, etc. Ils vont retrouver là des gens qui sont déjà partis. Vous savez que les gens se retrouvaient en petit milieu familial, ou même les gens d'une même ville se trouvaient dans une autre ville et se retrouvaient ensemble. Donc, je pense qu'ils avaient déjà leur noyau social et géographique, qui faisait qu'ils pouvaient justement se retrouver dans une petite ville, ce qui fait que dans le Nord-Est, moi quand je suis née donc dans le Nord-Est, nationalité italienne, puisqu'on n'était toujours pas naturalisé, et je suis née là, dans ce que je vous ai dit, une rue où il n'y avait pratiquement que des Italiens.
Et comment se passe l'accueil en Lorraine?
À Lorraine, c'est pas mieux qu'ailleurs, hein, parce que ben voilà, c'est pareil, hein. Voilà, c'est que j'avais un peu peur, hein, petite, parce que j'avais que 4 frères et donc je trouvais que c'était pas beaucoup pour la bagarre, parce que quand on devait se battre, les autres des frères étaient 8 ou 10, et nous on n'était pas suffisamment, quoi. Donc il fallait être armé. Quand je dis à mes amis que moi enfant je me suis battue, oui, c'est comme dans la guerre des boutons. Il y avait des guerres de gangs, les Français contre les Italiens, mais enfants. Donc, on n'avait pas les couteaux ni rien. Mais voilà, il y avait des batailles. On nous a traité des sales macaronis, voilà, jusqu'à ce que, effectivement, on ait 12, 14, 15 ans. Et là, c'est devenu la drague entre les Français et les Italiens. C'est à partir de là que, justement, les liens ont commencé à se créer. Et à partir aussi du moment où les gens ont découvert l'Italie et que l'Italie était un beau pays.
Parlez-nous de la tisanière.
Pardon ?
Parlez-nous de la tisanière, c'est celle qui connaît les plantes.
Ah là, ah oui, alors elle est extraordinaire, hein. Je me suis inspirée du livre de Michel Bourdelin, voilà, une sarde, qui a écrit Cabaora, que je recommande, parce que c'est vraiment la sorcière de l'époque, la Bruscuona. Et ma propre grand-mère, effectivement, soignait avec les herbes. Mais je ne sais pas si elle avait ce pouvoir de naissance et d'accompagnement des morts. Donc, j'en ai un peu rajouté. Donc, elle avait, c'était la sage-femme du village, la sage-femme étant la détentrice du pouvoir des plantes. Et elle a aussi cette capacité d'accompagnement des morts. Alors là, j'ai été fouillée un peu plus sur comment elle accompagnait les morts. C'est rude, hein. C'était pas avec quelques herbes. Elle accompagnait les morts, c'est-à-dire que quand dans une famille très pauvre de Sardaigne, il y avait une personne âgée, et j'ai vu ça aussi récemment dans Giono, où il dit que quand les personnes avaient 70 ou 75 ans, que commençaient à être malades, on n'avait qu'une envie, c'est qu'ils, parce que ça a été une bouche à nourrir, mais qui ne servait plus à rien. Et en fait, elle était demandée. Et elle arrivait avec son grand châle noir et ses mains. Et en fait, elle donnait, vous êtes bien assis, hein, vous êtes bien assis tous, un peu coup de marteau sur le front. Et comment on a su cette histoire ? C'est parce que dans les jardins de beaucoup de Sardes sont enterrés les aïeuls. Et quand on les a déterrés, il y avait un trou au niveau du front.
Mais elle s'est pas contentée de soigner, puisqu'au début du livre, elle donne la mort à celui qui lui a manqué de respect.
Oui, c'était une période, faut bien se rappeler que c'était une période dure. C'était des temps qui étaient très ardus. Donc, il n'y avait pas de commusure. Je veux dire, voilà, de toute façon, les gens mouraient, les gens étaient beaucoup plus habitués à la mort que maintenant, les enfants mouraient jeunes, il y avait des vendettas, et en Sardaigne surtout. En Sardaigne, pour un oui, pour un non, on n'allait pas aller chercher le juge, puis l'avocat, le machin, puis le truc, etc. et tout. C'était, tu me restais, hein, pas des duels, mais effectivement, on pouvait disparaître du jour au lendemain. Faut pas oublier que ces sociétés, pas primitives, mais des sociétés dans lesquelles les gens avaient des vies très dures, les relations étaient difficiles, et on n'y allait pas par quatre chemins, comme on dit.
Il y a aussi, au cours de ce livre, des amitiés qui se nouent, des femmes qui se rencontrent et qui partagent un moment de leur existence.
Oui, parce qu'en fait, il y a deux familles. La famille de la Cabadora, la sorcière, et puis il y a une autre famille avec Maria Itria, ils ont des noms super, hein, Maria Itria, il fallait trouver quand même. Et puis, donc, ces femmes vont se retrouver dans les épreuves, elles vont s'entraider, bien sûr. Elles vont s'entraider parce que, comme vous le savez, dans ces pays si pauvres, qui sont à la fois si joyeux, malgré la pauvreté, l'entraide était primordiale. C'est-à-dire qu'il était important d'avoir des appuis. Donc, ces femmes-là qui vont se retrouver seules, elles vont s'entraider, elles vont être complices sur pas mal de thèmes.
Et donc, à un moment, elles ont envie de retourner en Italie, en Sardaigne.
Oui, oui, bien sûr, parce que moi, je me rappelle que dès qu'elles ont pu, c'est-à-dire dès qu'elles ont eu un peu d'argent, parce que dans l'histoire, il fallait aussi avoir de l'argent, parce que quand on travaillait dans la métallurgie, on avait des salaires. D'ailleurs, souvent, je me dis, je pense que mon père devait gagner ce qui correspondrait aujourd'hui à 1100 euros, et avec 1500 euros, on nourrissait une personne. Donc, évidemment, on n'avait pas trop d'argent pour faire des voyages. Voilà, donc il a fallu attendre un certain temps pour envisager le retour en Sardaigne, ne serait-ce que pour retrouver la famille qu'on avait laissés. Donc ça, c'était très important. Et puis ensuite, mais le retour en Sardaigne définitif, non. Parce que quand même, moi, ma mère m'a toujours dit qu'en France, nous les femmes, on a eu la chance d'accéder aux études gratuitement. On avait une liberté d'avance par rapport aux hommes.
Donc on va poursuivre à propos du retour en Italie, mais peut-être aussi de toutes ces amours qui se sont noués pendant et après la guerre, parce qu'il y a eu là aussi à la fois des moments merveilleux, mais aussi des moments douloureux, et notamment le fait que la libération n'a pas été tendre pour les femmes qui avaient des relations avec l'armée allemande.
Oui, donc j'ai voulu, l'histoire des macaronis, elle se déroule de 1930 jusqu'à peu près 2015, et ce sont 13 femmes, 9 femmes, donc on a parlé de la Cabadora, de Tonieda, et là, je tenais à parler de la période de guerre qui a vraiment traumatisé les Italiens. Ma fille, je pense, à cet âge-là, devait avoir la vingtaine. Et plus d'une femme ont été obligées de travailler pour les Allemands qui étaient installés donc à l'époque dans cette ville. Et elles étaient toutes jeunes, innocentes et très, très travailleuses. Et elles avaient besoin de travailler pour ne pas mourir de faim. C'est une période quand même, je pense que tout le monde en a entendu parler, une période très, très difficile. Et je voulais montrer que cette guerre était très, très atroce pour des jeunes gens qui arrivent à la vingtaine, qui sont en pleine jeunesse, qui ont envie d'amour, se trouvent mêlés à une activité comme la guerre de 39-45. Et cette femme qui se retrouve à travailler à la commandantur tombe amoureuse d'un Allemand. Évidemment, ça a été assez quelquefois, pas souvent le cas. Et effectivement, c'est un amour absolument idéalisé. Et je voulais parler de ces pauvres jeunes femmes innocentes qui se sont retrouvées ainsi tondues à la libération. Et c'est profondément marqué ma mère, qui était, je pense, déjà une féministe dans l'âme, et qui trouvait que, comme d'habitude, c'était les pauvres qui trinquaient, alors qu'il y avait eu tellement de gens qui étaient collaborateurs avec l'ennemi et qui, eux, s'en étaient sortis sans aucun problème. C'est toujours l'injustice des grands et des petits. Voilà. Et ces femmes, c'est vrai que j'ai vu des photos de ces femmes dans des charrettes avec les tondues, elles sont tellement jeunes, elles ont l'air tellement inoffensives, je trouve ça scandaleux, franchement. C'est pour ça que je tenais à peindre et à ce qu'il y ait une femme de cette époque-là pour dénoncer cette injustice.
Et là, tu parles encore de voyage, puisque Nicole revient d'Amsterdam, et tu parles aussi de littérature. Et tu cites des auteurs comme Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Hélène Sisloux. Est-ce que ces femmes avaient accès à cette littérature? Est-ce qu'elles avaient accès à cette forme de connaissance?
Oui, pour moi, le livre, c'est un compagnon de tout. C'est-à-dire que c'est pas seulement dépaysement et une attitude décontractée. Voilà, c'est le livre que je pense on peut se forger une mentalité, une justesse de vie. Et donc, le livre enfant, effectivement, nous n'avions rien filmé. Ma mère nous a fait accéder à la bibliothèque et chaque semaine, on allait chercher un livre, on devait lire un livre par jour, par semaine. Donc ça, ça a été le début de l'enfance. Et par la suite, effectivement, parle de l'adolescence ou plutôt de la période féministe où on a eu plus souvent accès aux premiers livres féministes, les livres de Simone de Beauvoir, on connaissait, mais il y a eu effectivement Hélène de Sousse, et puis, j'ai pas les noms exacts aujourd'hui, mais moi j'ai beaucoup lu aussi les Américaines, Doris Lessing, Betty Friedan, etc. Et je pense que ces livres m'ont aidé à me trouver une forme d'identité féminine à une époque où l'identité féminine balbutiait. Je dirais dans les années 60, 70, on en était au balbutiement du féminisme. Et je tiens à dire du coup que féminisme ne veut pas dire anti-homme, ça veut dire simplement trouver sa voie, trouver une forme de liberté dans sa façon de penser et d'être grâce au livre.
Lorsque tu parles de ta jeunesse, c'était les balbutiements des premiers courants féministes. Mais à cette époque, les femmes étaient quand même très largement sous la domination patriarcale.
Non, absolument. Moi, je fais partie. Heureusement, moi, j'avais donc une mère qui lisait parce que était justement retirée de l'école par son père, et donc elle avait cette nostalgie de la lecture qu'elle nous a passée à nous tous. Et comme je dis, du coup, tout le monde a été prof. On est 5 enfants, des profs, parce qu'il y avait aussi ce désir d'intégration et même un désir de parler mieux le français que les Français qui nous traitaient de sale macaroni. C'est une forme de revanche. Mmh. La lecture, effectivement, des féministes, ça a été plutôt dans les années 70, une période où moi-même, j'ai fait partie des mouvements féministes, notamment en 74 pour la loi Veil, contre l'IVG. Il y a eu aussi le début des éditions des femmes qui se sont installées à Paris, c'était années 70. Il y a eu un total tournant qui est très important et que je voulais souligner pour l'entourage, pour les jeunes générations de femmes qui puissent imaginer qu'on n'est pas loin de cet élan-là.
Dans ce livre, s'il y avait un ou deux personnages que tu voudrais vraiment mettre en avant, lesquels sont-ils et pourquoi ?
Je mettrai donc la première, la Cabadora, parce que justement c'est un personnage mythique presque. Comme je dis, c'est pour moi une icône féministe, puisqu'elle avait déjà, elle, cette liberté d'action, puisqu'elle soignait, puisqu'elle accueillait les femmes à la con, puisqu'elle était capable de vie et de mort. Donc elle, c'est un personnage très très fort. Ensuite, comme je l'ai dit, la dénonciation de l'injustice sociale avec les tondus, des jeunes femmes qui étaient dans pleine jeunesse et qu'une envie, c'était vivre. Donc, dénoncer ce qu'on a fait à des jeunes femmes qui étaient quand même assez jeunes et innocentes. Après, les personnages, je pense que tous les personnages sont attrayants parce qu'on a eu un retour de lecture d'une de mes lectrices qui a dit, en fait, 9 femmes. Mais ces 9 femmes, ce sont les parties de nous. Il y a l'amoureuse, il y a la tante, il y a la féministe, il y a la lectrice, il y a la studieuse, il y a la révoltée. Donc, elles font partie, ce sont les états du moi au féminin.
Bon, est-ce qu'il y a un prochain livre que tu as envie de préparer ?
Oui. Il y a un prochain livre. Je voulais dire qu'il y a eu un précédent livre qui s'appelle Les Nouvelles Invisibles. Voilà, le premier livre que j'ai écrit s'appelle Les Nouvelles de l'Invisible. Là, c'est tout C'est un livre sur justement ben, les rêves télépathiques, les rêves utopiques, les rêves de nouveau monde, enfin voilà. Et qui, avec un CD, là j'avais le courage de faire un CD. Et donc celui-là que je porte comme un enfant et que j'essaye de faire connaître avec fierté autour de moi, un livre, la percée des macaronis. Et effectivement, je pense déjà à un prochain livre. Mais je ne vais pas en dévoiler le contenu, parce que pour l'instant, je suis en train de me pencher sur peut-être la création de ce livre, La traversée des macaronis, en une mini-série avec 10 épisodes.
Oui, c'est énorme.
Ben, on m'a proposé, donc je suis en train de retravailler sous une autre forme.
D'accord.
Non, mini-série, c'est une saison, cinq portraits de femmes et puis cinq autres. Mais on, voilà. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, mais j'ai aussi le projet d'un autre livre. Oui. Plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Au départ, il faut oser écrire. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut oser se faire lire. Maintenant que j'ai osé lire une fois, deux fois, je vais continuer.
La traversée des macaronis se termine par une chanson, Quelle Masoline di Fiori. Vous voulez nous l'interpréter ou nous la raconter?
Non, je vais essayer, mais bon, faudra pas m'en vouloir. D'abord. Je voudrais dire ciao a tutti gli italiani che mi ascoltano, vi faccio un abbraccio forte e vado a cantare il mazzolin di fiori. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. E guarda ben che non se baia, che lo voglio regalare. E guarda ben che non se baia, che lo voglio regalare. Alors normalement là on tape, tan, tan. Lo voglio regalare perché è un bel mazzetto. Lo voglio regalare. Perché è un bel mazzetto, lo voglio dar a mio moretto, questa sera quando voglio dar a mio moretto, questa sera quando vien, to, to, to. J'arrêterai là.
Merci Marie-Françoise. Où peut-on acheter la traversée des macaronis?
Ah oui, donc à traverser des manies, donc je tiens à le dire d'abord, est en co-édité avec Forum Femmes Méditerranée pour rejoindre tous ces mouvements de femmes actuels et pour soutenir les migrantes, d'une part. Et ensuite, je remercie la librairie Maupetit qui donc m'a gentiment permis de laisser mes livres en exclusivité dans la librairie et qui a fait également un petit interview, moi, dans Les Échos de la librairie Maupetit. Voilà.
Bon, c'est tout bien, tout ça.
Plutôt bien.
Ouais. Ben, merci de vous être prêté à cet entretien. Et puis, on va se revoir rapidement pour de nouvelles activités artistiques, de nouvelles activités féministes ou pour un prochain livre.
Avec plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très touchée et surtout d'avoir chanté.
On peut terminer avec Bella Ciao, si vous voulez.
Oh, ah non, là, vous chantez avec moi, alors. Hein. Alors, je fais trois trucs. Alors, Bella Ciao. Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho visto l'invasore, o partigiano, porta via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento lì, un po' più. Voilà.
Ben, c'est voilà. Une très, très belle façon de terminer cette émission, Marie-Françoise. Encore grand merci d'avoir participé à l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. À tout bientôt.